Cette musique qui swing avec une femme à la chanson, eh bien peut-être vous en avez entendu parler parce qu'elle est très très fameuse, même si à Cuba, elle est considérée comme une traîtresse puisqu'elle a quitté le pays, c'est Celia Cruz. Alors, nous continuons notre conversation avec Corinne Souter, je vous le rappelle, musicienne qui a vécu 3 mois à Cuba entre 89 et 90. Et nous lui demandons de préciser comment ça se passe dans sa famille, parce que ça nous intéressait de savoir comment dans le quotidien, quand on entre dans les maisons, comment ça se passe.
Corinne, dans la famille qui t'a accueillie, comment cela se passait? Comment tu as pu t'intégrer? Quel est le quotidien d'une famille typiquement cubaine? Tu nous as dit, celui qui t'a convié est postier. C'est une famille modeste à Cuba ou c'est déjà revenu important d'être fonctionnaire?
C'est une famille, je dirais, tout à fait moyennement bourgeoise, entre guillemets. C'est-à-dire que, quand je dis le terme bourgeois, ça veut dire qu'en fait, ils vivent assez correctement du revenu en fait que le seul homme dans la famille ramène à la maison, c'est-à-dire Jorge. Donc vivent sur ce revenu sa fille en fait et sa mère qui sont là à la maison. Et la mère a tout à fait le rôle en fait de la femme à la maison, la femme au foyer qui fait donc à manger, qui nettoie et qui part faire les courses. Entre guillemets, partir faire les courses à Cuba, ça prend un certain nombre de temps.
Faire les queues, donc.
Faire les queues, exactement.
Ça prend même une journée, parfois.
Exactement.
Surtout maintenant.
Disons qu'ils s'organisent, hein. Les gens s'organisent, ils se disent, bon, bah, tel jour, je vais aller acheter tel truc à tel endroit, parce que je sais qu'on fera peut-être moins la queue. Après, on annonce que dans tel quartier, il y aura tant de kilos d'oranges, enfin, de pamplemousse et de fruits, alors on s'organisera pour aller tel jour dans ce quartier. C'est vraiment... Il faut vraiment être très organisé pour arriver à faire ses courses en très peu de temps, là-bas.
D'après ce que tu dis, c'est vraiment ce que l'on entend parler dans ce qui a pu être le papa des Cubains, c'est-à-dire l'Union soviétique. Pourtant, apparemment, ce n'est sûrement pas la même atmosphère qu'en Union soviétique, non?
Alors, moi, je ne suis pas allée en Union soviétique, mais j'ai discuté avec d'autres personnes qui y sont allées et en effet c'est pas du tout la même atmosphère, mais en fait ce qui se passe c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les magasins, les rayons sont vides, les gens par moments se désolent et on en vraiment ras-le-bol, mais je pense qu'il y a ce côté, enfin la situation géographique de l'île qui fait que tout se passe bien, que les gens ont pris un certain rythme, c'est-à-dire très très calmissimo, tranquillamente, etc., etc. Donc vraiment les gens font leurs choses, ne s'en font pas en fait. Ils vont faire la queue, et ben tant pis, ça prendra 3 jours s'il faut. Ils font la queue et puis ça les empêche pas de continuer à chanter, danser dans la rue et être heureux en fait avec ce qu'ils ont.
Mais ça, Corinne, c'était il y a une année. On n'était pas encore rentré dans la période spéciale de paix où maintenant les choses sont devenues vraiment dramatiques,
oui,
où les queues n'en finissent pas, où toute l'économie elle est en train d'être...
En effet, c'est vrai que moi je parle de mon expérience.
Donc, les choses sont nettement aggravées. Je crois que les gens ils dansent et ils chantent beaucoup moins dans la rue qu'il y a une... malheureusement.
Peut-être.
On va en parler peut-être.
C'est ce que je vais expérimenter en fait cet été, en effet.
Voilà. Ça, c'est sûr. Et puis la fille de ton... Note, je sais pas comment.
Voilà,
j'arrive pas à dire mon espagnol. Jorge,
voilà.
Oui, Jorge. C'est une grande fille, elle mène sa vie elle-même.
Non, elle a. Donc, donc à l'époque, elle avait 9 ans, maintenant elle va sur ses 11 ans. Elle est donc en fait, on peut la considérer encore à l'école dans les études donc obligatoires. Et c'est vrai que moi je le ressens comme ça au travers des lettres que je reçois, toute la famille base son espoir sur elle, sur la réussite de ses études, sur sa réussite sociale, etc. Hein? Donc vraiment, en plus, c'est vraiment une enfant très douée, qui fait de la danse, des claquettes à côté, qui fait plein de choses et qui est très, très vive.
Et à toi, on te demandait de participer dans la vie de la famille, ou toi, t'intégrais, proposais de participer à la vie de la famille?
Alors ça a été très dur au début, parce que moi, en fait, on me considérait un peu comme une petite reine, là, au milieu. Et j'avais vraiment beaucoup de peine à leur dire, écoutez, laissez-moi faire ci, laissez-moi faire ça. J'allais avec la maman à la cuisine et j'avais envie de l'aider. Mais elle me disait non. Elle me disait presque, c'est mon rôle, moi je fais ça. Toi, tu es ici, tu es l'invité à Jorge, donc t'as rien à faire. Va dans la rue, va voir, va rencontrer des gens, va faire tes cours. C'est un peu comme ça que je le ressentais, vraiment. Donc j'ai vraiment été accueillie tout de suite comme si j'étais une deuxième fille de la famille. C'est un peu comme ça. Hein. Je me suis sentie... Dans un premier temps, je me suis sentie mal parce que j'ai senti que vraiment chacun avait un petit peu son rôle dans l'histoire et que je ne pouvais pas trop venir avec mes manies d'européenne là-dedans. Il a fallu un petit peu que je les voie opérer. Mais par la suite, en fait, j'en étais vraiment beaucoup de bien-être. C'est sûr, c'est vraiment des gens très chaleureux qui t'apportent, qui te donnent tout ce qu'ils ont. Vraiment, ils ont le cœur sur la main. Et nous, on n'a pas... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, dans ma vie personnelle, j'avais pas vraiment l'expérience de ça. Et ça m'a beaucoup marqué. En fait, il y a aussi une autre personne que j'ai rencontrée donc, dans cette famille, c'est l'ami Arorgué, qui fait quand même pratiquement maintenant partie intégrante de la famille d'Arorgué. Là-bas, donc, on la considère comme sa fiancée. Mais en fait, cette femme vit chez son père encore avec un petit enfant d'un premier mariage et elle joue en fait le même rôle que Lola, c'est-à-dire la mère d'Arorgué, dans sa propre famille. C'est-à-dire qu'elle travaille à l'extérieur. En plus, elle travaille à l'extérieur. Elle ramène un salaire à la maison et elle s'occupe de la maison, du ménage, de son enfant et de son père.
Donc, est-ce à dire ces deux exemples, soit celui de la mère qui vraiment remplit la tâche très ménagère, mm-hmm. et puis celle de cette jeune femme, la fiancée de Jorge, est-ce à dire qu'il n'y a pas eu de libération des femmes à Cuba? Est-ce qu'on les retrouve beaucoup dans les tâches ménagères, assumant en plus cette double journée où elles ont vraiment beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités sur leurs épaules et pas beaucoup de partage avec les hommes?
En effet, moi je dirais, je sais pas vraiment en fait, hein, parce que j'ai pas tellement creusé, j'ai pas rencontré énormément de femmes avec qui j'ai pu discuter du problème, mais j'ai très souvent vu le schéma, la femme à la maison, en plus la femme à la maison et travaillant à l'extérieur parce qu'il en faut, parce que en plus par rapport, je veux dire, à l'idéologie politique, il faut travailler, il faut qu'il y ait du rendement. Donc tout le monde met la main à la pâte, que ce soit les hommes et les femmes. Et là, il n'y a pas de séparation non plus, hein, entre hommes et femmes. Tout le monde doit travailler, tout le monde doit mettre la main à la pâte.
Ça veut dire que les femmes participent beaucoup aussi au comité de défense de la Révolution, les fameux CDR?
Tout à fait. Elles ont partie intégrante là-dedans. Elles font même des tâches d'hommes. Très souvent, moi, j'ai vu des femmes dans la rue en train de faire des travaux de maçonnerie, de retaper un mur et de faire des choses comme ça.
Tu peux expliquer un tout petit peu ce que c'est que les comités de défense de la Révolution?
Alors, en fait, moi, d'après ce que j'ai perçu, c'est un petit groupe de personnes, hein, comme ici, comme ça pourrait exister en fait ici, un groupe de personnes qui se réunit dans chaque quartier et qui s'arrange, qui gère la vie sociale du quartier, la vie économique du quartier, enfin, qui fait en sorte que tout se passe bien dans une certaine partie de la ville, voire même dans une certaine partie du pays, je pense, hein, que ça se développe un peu comme ça. Au niveau de La Havane, moi je l'ai compris comme ça, il y a des petits groupuscules un peu partout qui s'occupent du bon fonctionnement de la vie de tous les jours. Et s'il y a un truc qui se déglingue dans un coin, eh ben, on envoie un groupe de personnes, hommes ou femmes, qui va retaper le truc. S'il y a un problème au niveau de la gestion de je ne sais pas quel magasin ou d'une chose comme ça, on essaye d'en débattre et de trouver une solution.
On dit aussi que malheureusement, ces comités de défense de la Révolution... Ils ont un rôle de mouchardage, c'est-à-dire que de contrôle, que d'un citoyen à l'autre, on observe s'il est un bon militant, un bon révolutionnaire, et s'il n'est pas, à la fin de l'année, bah, il ne pourra pas s'inscrire pour obtenir le téléviseur ou la machine à café dont il rêvait. Est-ce que tu as pu constater ça un petit peu?
Je l'ai constaté un petit peu, en effet. J'ai constaté une certaine peur générale des gens à parler dans la rue avec un étranger, à échanger toutes sortes de choses, et à commencer par ma propre famille, ça a été très 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 difficile d'avoir un lien, de commencer à parler vraiment de ce qui se passait dans leur pays, de parler politique, de leur demander un peu ce qu'ils ressentaient par rapport au régime et tout. Et ça s'est ressenti un peu partout aussi, quand j'en parlais avec les musiciens avec qui je partageais donc la salsa, j'ai vu que très vite ils dérapaient sur un autre sujet, quand je commençais à entamer une conversation, je dirais, à connotation politique. Donc c'est vrai que la peur, elle est là, je l'ai sentie.
Et en fin de compte, quand ils étaient mis en confiance, est-ce qu'ils t'ont dit ce qu'ils pensaient réellement de leur pays?
Tout à fait, mais ils ont un petit peu sans être grossière, le cul en deux chaises. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait conscients des problèmes que leur pays vive. Il y a un ras-le-bol général de faire la queue, de ne plus avoir à bouffer certaines choses, à bouffer, etc., etc. Mais dans la marche générale... C'est quand même des gens qui ont conscience qu'ils ont un appartement qui leur appartient, ils ont de la nourriture, ils ont une éducation gratuite, ils ont des soins médicaux gratuits. Bref, ils ont ce qu'aucun autre pays du tiers-monde ne possède actuellement. Ils ont une vie tout à fait, un niveau de vie tout à fait sommaire, mais qui est quand même là. Alors, en étant conscient de ça, en fait, c'est pas vraiment un noyau de... Moi, je les perçois pas comme des gens totalement mécontents au point de faire une deuxième révolution dans le sens inverse. Ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ça marche quand même bien. Malgré tous les problèmes qu'il y a, ils continuent, enfin, jusqu'à ce que... Moi, j'y étais, hein, je parle de 89-90... Il y avait une espèce d'évolution qui se faisait. C'est clair que maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec l'Union soviétique qui les laisse tomber, ils se retrouvent vraiment dans une situation assez infernale. Mais après les nouvelles, ils s'en sortent encore pour le moment. Hein. Ils ont commandé des vélos, ils essayent de développer des endroits pour développer plus de culture, pour avoir plus de choses à manger. Donc, ils essayent de devenir autonomes. Je les ai ressentis comme un peuple assez optimiste, allant vraiment de l'avant et aidé évidemment par les discours de Fidel sur ce propos, c'est-à-dire nous vaincrons, allons de l'avant, il ne faut pas baisser les bras, etc., etc. Il les tire encore bien, les gens sont encore bien derrière lui. Hein. Je veux dire, il y a un groupuscule, il y a certaines personnes qui sont mécontentes, mais elles sont écrasées par le poids des autres qui estiment que mieux vaut vivre comme ça que crever de faim dans son coin. Parce qu'ils sont vraiment... Ils sont au courant de ce qui se passe autour d'eux quand même à ce niveau-là, dans les autres pays du tiers-monde.
Et puis il faut dire aussi que le fait de l'embargo qui est imposé par les États-Unis et par d'autres pays leur donne une cohésion nationale incroyable.
Tout à fait, on est
seul au monde, donc on est tous au coude à coude pour montrer au monde qu'on vivra envers et contre tout. Mais je ne sais pas combien de temps cette cohésion va durer.
Parce que j'ai Non, c'est sûr, on espère vraiment, en fait. Moi, je trouve, par rapport à ça, je trouve vraiment très beau de voir comme ils tiennent le coup, comme ils se redonnent le message, comme ils s'encouragent les uns les autres. Et moi, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est assez un exemple, quelque part. Sans tomber dans le schéma léniniste, etc. Moi, je veux dire, je ne suis pas une communiste dans l'âme, mais j'ai vu des gens qui se tenaient les coudes simplement, qui vivaient tous les jours avec ce qu'ils avaient. Il n'y avait pas ces espèces de problèmes de jalousie, de corruption. Bien sûr, il y a un marché noir à Cuba. Mais c'est un marché noir qui est, comment dire, qui est nécessaire sans être vraiment de la corruption.
Donc tu n'as pas l'impression qu'il y a un deuxième régime différent, une deuxième société qui s'organise de façon très capitaliste comme on l'a découvert avec horreur en Union soviétique, avec une mafia qui existait sous-jacente, souterraine au système socialiste. Ouais.
Non, alors... Bon, ben moi, je veux dire, j'ai quand même vécu 4 mois là-bas, c'est pas non plus énormément, mais j'ai vraiment pas du tout senti une chose comme ça. Et alors, s'ils le font, ils sont calés, parce qu'on
sent rien. Il y a les Cubains qui sont à Miami, et
ah
qui
oui,
ont
bien
une
sûr.
Énergie, une nostalgie du pays qui est énorme, et tous les jours, ils attendent que le régime de Fidel Castro s'effondre pour revenir. Et c'est vrai qu'eux, ils reviendront avec des méthodes tout à fait capitalistes.
Bien sûr. Et c'est pour ça que Fidel, dans l'autre sens, ne leur permet pas de revenir. Parce que s'ils reviennent, ils vont divulguer toutes leurs histoires, toutes leurs envies et toutes leurs pulsions politiques. Et ça, c'est du reste un peu une contradiction qui se passe en ce moment avec le fait qu'ils développent beaucoup le tourisme. Ils développent le tourisme, alors qu'est-ce qui se passe? C'est clair qu'il y a des échanges entre les gens. Les Cubains sont très curieux, ils vont vers nous, ils viennent vers nous, nous on va vers eux, c'est logique. Donc forcément l'échange d'idées est là. Et donc ils se rendent tout à fait compte de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est, je pense aussi grâce à ça, que ça tempère et que ça fait la balance. Qu'ils se disent, mais non, d'une pime à l'extérieur, en fait, si on va en Angola ou je sais pas où, les gens crèvent de faim. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut régresser à l'ancien régime qui était celui de Batista, où il y avait 2 ou 3 familles qui se partageaient toutes les richesses, puis les autres crevaient de faim, dans la misère et dans la prostitution, en fait. C'était ça, là-bas. Alors, je crois qu'en fait, ils n'ont pas vraiment oublié ce qui s'est passé il y a 30 ans. Puis 30 ans, c'est peu de temps, 30 ans. Je veux dire, dans un siècle, même. C'est très peu, ils n'ont pas oublié.
Comme je lisais quelque part, Fidel Castro aurait dit « On ne peut pas construire le paradis à partir de l'enfer en si peu de temps. »
Exactement.
Et si tu ne viens à moi,
de choses à dire sur Fidel, on pourrait leur reprocher des tas de choses, mais moi je trouve que quelque part, c'est quelqu'un de solide et de... Aidez-moi, je perds mon vocabulaire.
Tu l'as rencontré, c'est quelqu'un de très éloigné du peuple, ou bien on peut le toucher.
Il est sans arrêt, il va sans arrêt dans les plantations, partout, voir, encourager.
Il est extrêmement populaire, parce que tout à l'heure, Catherine, tu voulais faire une comparaison avec les pays de l'Est, et on sait que les dirigeants des pays de l'Est, pas du tout des personnages populaires, charismatiques. Fidel Castro est un homme extrêmement charismatique, apprécié par le peuple, parce que le peuple...
On le lui reproche du reste, mais je trouve ça vraiment déplacé.
Le peuple voit bien qu'en fait, il mène pas exactement la vie de l'homme de la rue, mais il vit pas dans un luxe extraordinaire. On sait que...
Non, simplement, il vit avec les bases nécessaires qu'ils peuvent se permettre. C'est tout. Avoir un lit, un toit, à manger... Quand on tombe malade, on se fait soigner et on peut apprendre à l'école. C'est déjà une base solide pour un pays du tiers-monde. Après, ils ont toujours essayé de continuer à aller de l'avant, mais je veux dire, avec le blocage des États-Unis, c'est vraiment pas une mince affaire. Maintenant, voilà qu'il y a l'Union soviétique. Ils sont vraiment, en tout cas, s'ils s'en sortent, chapeau, moi j'espère pour eux vraiment que.
Puis c'est vrai qu'il y a une sorte d'imagerie révolutionnaire qui est encore très ancrée. Le triangle Che Guevara, Fidel Castro, Cienfuegos, c'est des images mythiques. Ils ont vraiment des personnages à qui se référer. Et ça les porte, parce qu'ils trouvent que c'est vrai que c'est une très très belle révolution. Et peut-être les gens qui se plaignent le plus du régime, ce sont effectivement les intellectuels, parce que les intellectuels qui ont voulu être critiques, eh bien...
Et une certaine partie des jeunes, en effet.
Et une partie des jeunes aujourd'hui,
et après la révolution,
de 18-20 ans, qui ont envie d'avoir accès aux objets de consommation, et ils ne le peuvent pas. D'ailleurs, le groupe Los Bambas, qu'on va écouter pendant cette émission, eh bien, c'est évident qu'eux traduisent cette sorte de lassitude de la jeunesse. Ouais, et les jeunes disent tous, nous, on aimerait partir à l'étranger pour voir ce qui se passe ailleurs, mais on a surtout envie de revenir dans notre pays. Personne, c'est une souffrance énorme. Et d'ailleurs, les Cubains qui sont à Miami, tous les jours, ils rêvent de revenir à Cuba. Ils n'ont pas envie de rester à Miami. Et on sait qu'aux États-Unis, parmi les communautés étrangères, les Cubanos, c'est la communauté la plus solide, la plus cohérente, parce qu'ils ne se sont... Ils sont encore cubains. Même ailleurs, ils sont encore cubains.
C'est là où le dilemme est grand pour Fidel, parce qu'il sent bien tous ces courants différents. Et en même temps, il ne peut pas se permettre de faire rentrer toute une communauté dans son pays, en sachant que cette communauté a complètement changé sa manière de vivre, hein, et sa manière de penser politiquement parlant. Et en même temps, il sent aussi de l'autre côté cette pulsion, donc son peuple, qui veut sortir, voir comment ça se passe à l'extérieur, tout en sachant que peut-être ils auraient envie de rentrer, mais c'est tout des suppositions, ça. Alors, pour lui, ça ne va vraiment pas être facile de gérer tout ça. De retenir les uns, de rattraper les autres et de dire, écoutez, maintenant, faisons déjà avec ce qu'on a ici, avant de projeter nos rêves plus loin. Mais c'est normal, en fait, c'est tout à fait légitime. Et justement, avec cet apport et ce développement du tourisme, ça va être toujours plus difficile de retenir cette envie qu'ont les Cubains de partir, de sortir, de juste, ne serait-ce que de faire un court voyage pour aller voir comment.
Et pourtant, le choix de développer le tourisme est une optique du gouvernement. Enfin,
ils n'ont plus que celle-là maintenant, parce que ça développe les devises, parce que ça amène les dollars et qu'ils en ont sacrément besoin.
Ça amène les dollars, ça amène la délinquance aussi. Ça, c'est un problème qui est de plus en plus grave, parce que les Cubains voient comment vivent les touristes, parce que les touristes dans les hôtels ont tout, alors que eux, les Cubains, n'ont rien. Il y a des magasins pour touristes, on vend des machines à café, on vend des téléviseurs, on se demande pourquoi, parce que quand on va à Cuba, on n'a pas envie de retourner avec ça. Donc, ils voient tout ça, il y a une vitrine extraordinaire auquel ils n'ont jamais accès. Alors, ça les met dans un état de frustration, ce qui fait que la Havane est devenue un endroit extrêmement dangereux, parce qu'on vole les touristes pour obtenir des dollars, pour avoir accès à des choses qu'ils n'ont absolument pas.
Et je crois que ce côté-là, c'est...
Et c'est une brèche très dangereuse. Même si quelques Cubains disent c'est important qu'on ait des dollars parce qu'on a besoin de devises et que c'est la survie de notre gouvernement, de notre régime, mais dans le quotidien, ils n'en peuvent plus de cette différence. Et ça, je pense que si le régime castriste doit s'effondrer, ce sera entre autres à cause de ce que les touristes ont introduit.
Bien sûr. C'est toujours comme ça, du reste, que la plupart des choses se sont effondrées. C'est-à-dire qu'on amène une nouvelle chose qui est très tentante et en fait très destructrice. à la base. Hein. Je veux dire, c'est clair que nous, on amène tout notre petit confort, nos petits objets, en fait, qu'on a vraiment inutiles pour eux. Et bon, bah, ça, c'est toutes des choses, c'est des envies qu'on crée. Mais ce problème-là de la délinquance, moi, je pense qu'il s'est développé surtout depuis il y a une année et demie, 2 ans en arrière. Parce que moi, quand j'y étais, j'ai vécu quand même 4 mois, principalement à La Havane, il n'y avait pas ces problèmes-là. Déjà, ces problèmes de vol, comme ça. Je crois que ça se développe vraiment maintenant que la situation s'aggrave.
Oye, si yo soy rumbero, chico, pero de corazón. Me gusta mucho el teatro y a veces voy con mi mujer. Voy a un concierto también, aunque confieso no tengo el. Soy junto a mi manera, a mí me gusta lo popular, pero trato de hacer mi esfuerzo para no desentonar. Yo no soy lo que tú quieres, yo prefiero ir a bailar, aunque me digan hacer, porque voy a la tropical.
Entendez là le groupe chouchou des Cubains, Los Bamban, dont il a été question beaucoup dans notre conversation avec Corinne Souter et avec Odette Mudry à propos de Cuba, dont nous parlons, que nous évoquons aujourd'hui dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Et maintenant, nous avons envie de vous faire écouter de la musique de la Santaria, dont on a aussi parlé tout à l'heure. Cette musique qui vient très loin de l'Afrique. Je vous fais d'abord écouter un petit bout. Alors la Santaria, c'est cette religion effectivement qu'on a évoquée comme pouvant être le vaudou ou la macumba brésilienne. En fait, c'est cette culture religieuse qui vient de l'Afrique. Vous savez bien que aussi bien les îles des Antilles qu'ensuite toute l'Amérique du Sud a vu des Noirs arriver comme esclaves, imposés et entraînés de leur Afrique lointaine jusque dans ces pays-là. Et ils ont emmené avec eux, d'abord bien sûr, toute leur culture, mais pour se protéger, ils ont cherché par tous les moyens à la conserver. Et ils ont trouvé divers moyens, entre autres de résistance, celui de faire semblant d'accepter la religion catholique imposée par les conquérants, que ce soit les Espagnols à Cuba ou les Portugais au Brésil. Mais derrière cette acceptation apparente de la religion catholique, ils ont gardé leurs propres convictions religieuses et surtout leur adoration de certains esprits, les orishas. Eh bien, les orishas sont cachés chaque fois derrière un saint de la religion catholique. Et c'est Shangun, c'est Yemanja, c'est Oshun, tous ces dieux qui protègent et interviennent dans la vie des hommes. Ils se comportent d'ailleurs souvent comme les hommes, ils ont des sentiments comme les hommes et on les retrouve apparaissant dans les officiants de ces séances, on ne peut pas dire vraiment religieuses, mais d'esprit, où la personne entre en transe et à ce moment-là parle, s'évoque le Dieu qui est venu l'habiter à ce moment-là. Alors on retrouve bien sûr cela très fort à Cuba et c'est très présent, je crois, Odette, dans la vie quotidienne. Tu as une petite anecdote à nous raconter parce qu'on retrouve la Santería vraiment sous toute forme d'expression, que ce soit l'art, la musique, la religion.
Oui, il faut dire, Catherine, qu'au début, évidemment, quand il y a eu le communisme qui a démarré, qui a été introduit à Cuba, évidemment, ça ne correspondait pas tout à fait quand même à l'idéologie officielle. Alors au départ, on a essayé de gommer ce genre de croyances et on a essayé de demander aux gens de ne plus faire des cultes officiels.